Si vous voulez, pour vous faire une petite parenthèse pour éclairer un peu plus en passant de l'hébreu au français simultanément. Il y a en fait, en hébreu, du point de vue de la grammaire officielle classique, deux genres. Le genre masculin, le genre féminin. En réalité, il y a aussi un genre, un troisième genre que certains hommes connaissent, et qui est le genre neutre, qui est dans impersonnel. Je dirais autrement, le masculin correspond à la première personne, à nous, c'est la première personne, c'est au masculin. L'indice est que tant un homme qu'une femme, lorsqu'il dit « je », dit le même mot. Il n'y a pas de féminin à Annie. Toute position de première personne est masculine, toute position masculine est de première personne. Enfin, inversement. Je ne veux pas ici du tout toucher au problème de masculinité et féminité. Pourquoi l'hébreu met à l'actif le masculin, au passif le féminin? Mais simplement, je vous décris très rapidement la règle de grammaire qui apparaît là. La deuxième personne est au féminin, et c'est tellement renforcé que lorsque c'est le masculin qui est à la deuxième personne, la forme est féminine double. At, c'est le féminin. Ata, c'est le masculin. Et à at, qui est féminin, on ajoute encore un et qui est plus que féminin. Vous voyez, lorsqu'on dit à quelqu'un masculin, toi, lorsqu'on le met en position de deuxième personne, alors on le féminise totalement, si j'ose dire. Mais il y a la troisième personne, qui est le troisième genre, who, lui ou he, elle. Et on a remarqué que la racine de who ou he, lorsqu'on parle de quelqu'un à la troisième personne, lui ou elle, est la racine du nom de l'être, yud-ke-vav-ke, oui, du nom de l'être absolu. L'être absolu est à la troisième personne, who, he. Ici, un thème assez important, à la troisième personne, qu'on dise de moi il. Et lorsqu'on est arrivé à l'existence, à l'indice il, c'est l'existence ontologique définitive, absolue, totale, définitive, absolue. Hein? Je ne vais pas aller trop loin, c'était un peu trop, mais je pense que c'est ça. On acquiert cette existence définitive à la mort, au moment où définitivement on parlera de chacun à la troisième personne. On dira définitivement il.
Est-ce qu'il n'y a pas une...
C'est l'horizon funèbre, quoi, si j'ose dire. Bon, ça c'est pour les créatifs. Alors, il y a une relation à Dieu en tant que je, ami, une relation à Dieu en tant que il, vous. Et vous comprenez que vous est beaucoup plus haut que ami. C'est vous qui se dévoile comme ami. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Mais je vais encore un peu expliquer. Et dans la relation de l'homme à Dieu, c'est le mot de Ata qui apparaît. L'homme dit à Dieu, Ata, ou tu es lui. Et lui, Dieu dit, je suis lui, Ani, ou Ata, ou Hachem Elokim. Ata, ou Hachem Elokim. C'est toi qui s'est dévoilé comme quelqu'un qui est celui dont nous parlons en parlant à la troisième personne en disant lui. C'est toi qui es lui. Et lui, dans sa révélation, nous dit l'inverse. Corollaire, complémentaire. C'est moi qui suis le lui auquel vous faites allusion. Bon, ces choses ne sont pas simples, mais vous voyez un peu ce que fait allusion ici, à quoi fait allusion le Gaon, en indiquant cette affirmation totale du monothéisme de la tradition hébraïque. Il y a identité absolue entre lui et je. C'est lui qui est le je à qui je m'adresse pour dire toi. Bon, voilà, grosso modo. Ani, vous. Bon, et il y a les 70 noms qui se révèlent dans les 70 médiations de ces Jéhim Panim. Il y a 70 visages, mais il y en a deux en particulier. Le visage de Dieu comme lui et le visage de Dieu comme je. Et c'est, en termes de philosophie, si vous voulez, le problème de la transcendance et immanence. Mais c'est beaucoup plus riche dans les catégories de la Kabbalah. C'est-à-dire, lorsque Dieu se révèle en tant que transcendant, c'est le nom de lui qui apparaît. Et on parle de lui à la troisième personne. C'est vrai que la tradition juive, dans sa piété particulière, a gardé cette attitude. Toutes les expressions qui désignent Dieu, nous parlons français alors on dit le mot Dieu, mais nous avons des consignes strictes dans la piété traditionnelle, on n'emploie jamais ce mot-là. Okay? On ne dit jamais Dieu dans une étude. Vous vous rappelez hier qu'on a posé la question, comment faire de la théologie en hébreu? On ne peut pas, parce que comment dire Dieu en hébreu, il n'y a pas. Dès qu'on dit le mot Dieu, ça veut dire l'idole. Okay? Et en hébreu strict, alors on dit celui qui est ce dont vous parlez quand vous parlez des dieux. Lui qui est... c'est toujours l'allusion, lui. Et vous retenez toute cette série d'expressions traditionnelles. Hashem Itbarach, c'est toujours à la troisième personne. Le nom qu'il soit béni. Hakadosh Baruch Hu. En fin de compte, le nom par excellence, c'est lui. Ceux qui sont familiers avec ce langage, des langages juifs traditionnels.
Et le Ani, c'est quoi? C'est le vous, c'est le transcendant, le
Ani. C'est le immanent, bien sûr. J'y arrive, pour le moment, alors, l'affirmation, c'est que celui qui est le transcendant, c'est lui qui est l'immanent. Celui qui est l'immanent, c'est lui qui est le transcendant. Il y a deux hérésies possibles à la limite, si vous voulez. Ne retenir que la transcendance et annuler l'immanence. Ne retenir que l'immanence et annuler la transcendance. Vous comprenez l'importance du problème. Je pense, c'est un schéma qui peut paraître un peu trop schématique, mais qui, je pense, a sa propre fécondité, c'est que dans la dimension de l'islam, on a mis beaucoup plus l'accent sur la transcendance, au point que l'immanence semble être complètement annulée, je mets tout ça au conditionnel, semble, alors que dans la dimension de la chrétienté, on a mis tellement l'accent sur l'immanence que la notion de la transcendance est devenue pour moi une allusion verbale. À la limite, le musulman connaît surtout lui, et le chrétien connaît surtout le jeu, mais le Dieu vrai, c'est celui qui est Ani Vahu. Anochi, c'est une affirmation supplémentaire, c'est moi qui suis lui. Lorsqu'il y a doute, le je Ani doit affirmer Anochi. Okay. Je voulais vous donner très rapidement la correspondance des midotes. Le nom de Hu apparaît au niveau de la Sphira Keter, pour ceux qui sont habitués à cela, les autres oubliés. Le nom de Ata au niveau de la Sphira Tiferet, le nom de Anochi au niveau de la Sphira Yesod, et le nom de Ani au niveau de la Sphira Malchut. Alors vous voyez, les kavanot d'unité. Ani, Hu, Ata, Hu, Elokenu. C'est toi qui es lui, notre Dieu. Et je fais allusion très très brève à Bouvert, hein. Le fait que l'homme s'adresse à Dieu en lui disant « tu ». Et ce « tu », c'est un jeu qui s'est révélé, c'est pourquoi je le connais comme « tu ». Mais l'affirmation, c'est « tu es lui », parce que lui a dit « je suis lui ». C'est lui qui se dévoile comme « je », alors je peux lui dire « tu », en sachant qu'il est lui. Bon, c'est une dialectique de la transcendance et de l'immanence qui, dans un langage extra-hébraïque, est très compliqué philosophiquement, mais qui, en hébreu, colle avec le langage de vrai immédiat. Okay. Vous voyez, je reprends très brièvement cela. Ani est toujours masculin. Ata est toujours féminin. Hu est neutre. C'est neutre, c'est pas le mot, hein. C'est pas un troisième genre. C'est le genre de l'être absolu. C'est le genre ontologique. Lui, elle, lui, hu, hi. Alors, hu avec le vav, hi avec le yod, c'est encore un autre problème pour lui-même, mais c'est bien l'être qui apparaît dans ces deux visages du lui, lui et elle. Bon. Pourquoi nous avons parlé de tout ça? Parce que le Gaon nous dit, de la même manière, dans les noms qui dévoilent les panim de la relation entre Dieu et son monde et sa créature, alors il y a les 70 noms qui correspondent aux 70 visages, aux 70 langages, etc. Mais il y en a deux en particulier à Nivea. Ce n'est pas par hasard. J'ai voulu vous indiquer cette correspondance avec le terme de transcendance et immanence, et derrière, les deux limites de tangente, si vous voulez, de l'expérience hébraïque, telles qu'elles sont devenues l'une par l'islam, avec l'accent sur la transcendance, et l'autre par l'immanence, et par la chrétienté, avec l'accent sur l'immanence, parce qu'immédiatement le Gaon va nous dire, et que dans les Chibim ou Mourd, il y a les 70 nations, c'est l'égoïme en général. Et puis il y a deux cas particuliers, qui sont une sorte de relation entre Israël et les 70, d'un côté par Ishmaël, de l'autre côté par Esav. Et il en résulte qu'effectivement, il y a un parallèle très exact. Et il va rattacher ça aux deux commandements. Est-ce que c'est clair? Je vais un peu interpréter en anticipant. Vraiment, je m'envole beaucoup plus que je lis maintenant. C'est une parenthèse. Mais il me semble que cette correspondance est très visible. Le commandement, le premier commandement, « Anochi Hashem Elokecha Asher Zivtecha Me'eretz Mitzrayim », c'est-à-dire Dieu s'étant révélé comme Ani, comme je, dans la providence de l'immanence de l'histoire. Dieu a sauvé Israël de l'Égypte, nous savons que le salut est possible, c'est le modèle de la Géoula, le Dieu sauveur. Là, la chrétienté comprend cela, okay, mais ne comprend pas le deuxième. Et alors, puisqu'il en est ainsi, tu n'auras pas d'autre Dieu avec moi, ils ont d'autres dieux avec lui. Oui. Alors que chez l'islam, ce serait peut-être l'inverse. L'islam a entendu le deuxième commandement, l'interdiction de l'idolâtrie est absolue chez l'islam, mais ce qu'ils connaissent, l'intimité de celui qui... j'allais dire s'incarne, mais ça c'est chrétien, qui se dévoile dans l'histoire d'Israël. Non. Oui, c'est délicat. Oui, tout ce qu'il y a dans cette note du Gaon. Dans ce Ishaken, Imine Shekot Pihu, le Gaon nous restitue, à travers le Midrash que nous avons lu, qu'il a choisi comme source, au fond, toute la philosophie de l'histoire des relations entre l'humanité et Dieu, avec comme centre signifiant ce qui s'est passé au Sinaï au niveau de ces deux commandements. J'ouvre une parenthèse, mais ne faisons pas de digression, parce que c'est plein de digressions ce que je vais dire, mais simplement pour donner un coup de projecteur. Et un jour, je pense que nous aurons à reprendre quand les passions se seront décantées, et en particulier les passions syndicalistes qu'il y avait là hier, de ce côté-là, les syndicats des dockers. Nous aurons à reprendre finalement ce problème de la distribution de l'exil en ces deux grands embranchements, Ashkenaz et Sfarad. Ça nous aura à reprendre un jour, mais plus tard. Je crois que c'est un problème qu'on peut esquiver, donc on le rencontrera. Mais je voudrais vous citer un Midrash qui se trouve dans la paracha de Vaishlach, dans le Midrash Rabbah, qui part du principe suivant. Rechaim, les méchants, Shmotehem Naim, leur nom est très beau, Vemaasehem Groim, ou Groim, avec Kaf ou avec Gimel, ça revient un peu au même, mais leur conduite est mauvaise. Et donc, un certain nombre d'exemples de noms de Rechaim qui sont de très beaux noms. Et en particulier ces deux-là que le Midrash donne. Ishmael, Shomea, El. Vous avez déjà entendu cela? Ishmael, Shomea, El. Ishmael entend Dieu. Ishmael, Shomea, au présent. Ishmael, dans le nom Ishmael, c'est-à-dire Dieu t'entendra. Mais si le Midrash fait une interprétation, Ishmael a cette mida, cette capacité qu'il entend Dieu. Ça va un peu dans le sens que la prière d'Ishmael est authentique. Ishmael s'est prié. Et Esav accomplit la volonté de celui qui l'a fait. Bon, l'analyse pourrait aller très loin. L'attitude de l'expérience religieuse d'Ishmael et de Esav sont très différentes, mais vous devinez tout de suite, l'un est spécialiste du Naasé, Esav, et l'autre est spécialiste du Nishma, Ishmael. Or, c'est très frappant de voir qu'en dominant, la partie d'Israël qui a été en exil chez Ishmael préfère le Nishma au Naasé, c'est sa tendance, alors que la partie d'Israël qui était chez Esav préfère le Naasé au Nishma, c'est sa tendance, et ça c'est les Ashkenazim. Mais un vrai juif, c'est les deux, c'est Naasé et Nishma. Ici, ce Midrash est important parce qu'il nous montre d'une certaine manière en quoi l'identité Ishmael et l'identité Esav, qui sont définissables, alors qu'Israël est indéfinissable, sont les limites extérieures de l'identité de la famille d'Abraham. Pour approcher la connaissance d'Israël, eh bien, nous avons deux approximations, si j'ose dire, qui, elles, sont définissables. Ishmael, c'est clair. Esav, c'est clair. Enfin, c'est clair, je veux dire, c'est clair à définir. Israël, c'est mystérieux. Qui est Israël? Mais, et nous voyons que le parallèle va jusque-là. Dans l'identité sfarade, il est évident culturellement, que la tendance naturelle est plus dans le Nishma, j'ai pas traduit mais vous comprenez, plus dans le Nishma que dans le Naasé. Un sfarade aura plus tendance à croire qu'à misbotiser, je ne sais pas comment dire, qu'à accomplir, et un Ashkenaz aura plus tendance à faire qu'à croire. Mais en fait, tout ça c'est très schématique.
C'est vrai.
Avec toutes les exceptions sont.
Pas
les
c'est
exceptions,
vrai, c'est
toutes,
vrai.
Toutes les nuances sont essayées d'être dominantes. Mais que finalement, un vrai juif, c'est Naasé pour le Nishma, et avec d'ailleurs, comme vous voyez, une espèce de préséance Ashkenaz pour le Naasé sur le Nishma. Ce Midrash n'est pas Ashkenaz, il est juif, mais. Et là, ça peut s'éclairer. Si vous voulez, je prendrai deux minutes pour raconter une anecdote que j'avais entendue du grand Benjaïs il y a 30 ans. Il a été rabbin, et maintenant qu'il est à la retraite, je peux vous dire que c'était lui. Il a été rabbin à Agbeno, une ville Ashkenaz comme c'est pas possible, comme c'est évidemment pas possible, et puis à Constantine. Et alors, il raconte d'abord à Constantin qu'un jour, un de ses paroissiens, qui n'a jamais vu la synagogue, que c'est tout juste, il mange cachère le Shabbat, etc. Chaque fois qu'il y avait une collecte pour la charité, il n'était pas là, il était ailleurs. Et puis un jour, il vient avec une bouteille d'huile. Et il dit, monsieur Rabbin, j'ai rêvé d'Eliyahu HaNavih cette nuit, il faut mettre de l'huile dans la veilleuse d'Eliyahu HaNavih à la synagogue. Alors le rabbin Jaïs le regarde et dit, comment je t'ai jamais vu à la prière? Et tu rêves d'Eliyahu HaNavih, tu me portes de l'huile pour la veilleuse d'Eliyahu HaNavih. Et je lui dis, comment, monsieur Robin, vous y croyez pas? Et voilà, un juif. un type de juif. Puis à Agno, et après la veille de Pessah, le sermon sur les miracles de la sortie d'Égypte, le président, un homme très pieux, très digne, très, et qui vient le féliciter, parce que vous avez très bien parlé, mais vous savez, ces histoires, il faut les raconter à Mathieu autant de temps. Oui, alors il dit lequel des deux saints juifs. Vous voyez, et c'est réel, ces deux choses existent en dominante. À la limite, il y a une solution, c'est de prendre la fille de l'un et le fils de l'autre et les marier. Bien. Alors, revenons à notre...
Mais ils ne veulent pas de ce mariage.
Ah non, non, si, ça commence. Déjà, on fait dans les mœurs. Revenons donc au problème. Vous voyez, Ani va où? Et ça va correspondre à premier commandement, deuxième commandement. Ça va correspondre à cette... cette structure de la multiplicité. Il y a 70, mais il y en a encore deux qui sont à la tête. Et on va arriver au Sanhédrin, où effectivement il y avait 70 juges, mais il y avait aussi le Nassi et le Nahab Beddin, et c'est le sens du Aïn Bet, le grand nombre de 72 lettres. Tout ça c'est des allusions, mais vous voyez quelle est la structure qui passe par là. Okay? La multiplicité n'est pas un chaos, elle est organisée autour de deux grandes dimensions. Faisons une plongée dans l'histoire. On ne peut pas être stupéfait de voir que l'histoire de la réalité est comme ça. C'est-à-dire la relation entre Israël et la multiplicité des sociétés humaines, les Benot Yerushalayim, vous rappelez votre question, pas les filles de Sion, mais les filles de Jérusalem, les autres sociétés humaines à qui Jérusalem dit, vous savez, nous avons des secrets dans le corps, je ne sais pas comment dire cela, eh bien, elle est organisée de cette manière. Il n'y a eu de lien entre le peuple juif et l'universel, qu'à travers, surtout, je dis surtout parce que c'est là un temps privilégié de l'histoire du point de vue de notre problème, il y a eu des époques avant l'islam et la chrétienté, il y a eu des époques en dehors de l'islam et de la chrétienté, mais surtout ce lien est passé à travers l'église et la mosquée. Ça veut dire là où il y avait des églises, alors les juifs ont été reliés au goyim. Là où il y avait des mosquées, les juifs ont été reliés au goyim. Partout ailleurs, ils se sont perdus, ce lien n'a pas tenu. Ceci dont nous parle Gaon dans les structures du Midrash, c'est l'histoire réelle, c'est l'histoire concrète. Je ne sais pas si c'était suffisamment clair. Non ? Alors j'explique encore. Mais justement, ce que je veux dire, nous avons des traces aujourd'hui que des communautés juives ont existé partout, dans tous les paysages culturels, à tous les âges, dans tous les continents, mais elles se sont perdues. Elles ne tiennent pas le coup, je ne sais pas comment dire, elles se dissolvent.
Ouais.
Alors que là où il y a l'islam ou la chrétienté, elles tiennent. Et d'un côté, c'est le monde Ashkenaz, de l'autre côté, c'est le monde Sfarad. Oui. Oui. Et c'est vrai. C'est vrai, mais ce n'est pas un cas particulier. Ils ont tenu, mais ils ne sont pas restés juifs. Ils ont tenu dans une espèce de protection assez mystérieuse que nous connaissons, que les 10 tribus seraient protégées quelque part. Mais c'est quand les juifs les ont rencontrés qu'ils se sont dévoilés comme juifs. Mais ils se connaissaient comme des Bnei Israël, qui n'avait plus qu'un seul souvenir, le jour de Kippour, il ne mangeait pas de jambon, c'est tout. Oui, à peu près le problème.
Et des fois, la chasse, il dit oui.
Ah, c'est autre chose, ça c'est tout à fait autre chose.
Oui.
Ça c'est tout à fait autre chose, c'est des descendants convertis, mais c'est tout à fait autre chose. Mais actuellement, les Falachas rejoignent, mais je veux dire, c'est Bnei Israël auquel vous faites partie, que vous faites allusion, ce n'est pas les communautés juives d'Inde. Les communautés juives d'Inde, c'est des juifs se connaissant comme tels, et en général, c'est des juifs libanais et syriens en grande majorité, c'est-à-dire des juifs des pays d'islam qui ont émigré. En Inde, mais ce n'est pas des juifs hindous. Ceux de Cochin, c'est comme les juifs hindous. C'est toute petite chose. Mais est-ce que vous avez lu un roman qui me revient en mémoire, écrit par un auteur américain, une femme, là-dessus, sur l'histoire d'une famille juive en Inde, ça
Oui,
ça vous raconte très bien que ça se dit.
Ça se fait.
Il y a une espèce de.
La mère qui était très.
Ça, c'est des descendants de, convertis par les aumôniers américains pendant la Grande Guerre. Mais, je veux dire, on ne peut pas ne pas être frappé par cela. Simplement, vous me permettez d'ouvrir une petite parenthèse, il est possible que nous sommes entrés dans un temps où il pourrait y avoir un lien direct entre les juifs et les goïms sans passer par la médiation de l'église ou de l'islam, de la mosquée ou de l'église. Il y a un lien direct maintenant entre l'identité juive déreligiosisée, je ne sais pas comment dire ça en français, athéisée, et les goïms. Et il y a un lien direct entre Israël et les nations, l'État d'Israël et les nations, qui ne passent pas forcément par les communautés juives à l'ombre de la mosquée ou les communautés juives à l'ombre de l'Église. Enfin, depuis la fin du 19e siècle, je pense que ceci est clos. On n'a plus à passer à travers Ishmaël ou à travers Esav pour avoir le lien entre les juifs et les goïms. C'est court-circuité maintenant. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi les amitiés judéo-chrétiennes, les amitiés judéo-musulmanes, c'est joli, mais c'est du folklore. Ça ne sert plus à rien. Parce qu'il y a un branchement direct de juifs à goy qui ne passe pas forcément par cette canalisation.
Est-ce que vous voulez que nous en parlions, oui.
Chez les Peaux-Rouges, on a trouvé une petite communauté qui observait le Shabbat, allumait les bougies et possédait un tonard. Et alors, qui ne savait rien du judaïsme. J'ai vu un film comme ça en Israël.
Des Peaux-Rouges ou bien...
Qui vivaient...
Des Bétis.
J'ai vu un film comme ça en Israël. Je ne comprenais pas assez bien l'hébreu à ce moment, mais quand même. Et le fils est allé en Israël, s'est marié avec une Israélienne. Il est revenu voir sa mère, et etc.
C'est très vraisemblable actuellement. Ça se dévoile un peu partout. Voilà ce que je veux dire.
Ils allumaient les bougies.
Je vous donne un petit exemple. Vous avez dans des pays comme le Congo ou le Madagascar, vous avez une communauté juive, deux juifs, deux diasporas qui se sont installés là-bas et qui font leur communauté en tant que juifs. D'autre part, la présence d'Israéliens, soit pour la, comment on appelle ça, la coopération, et des liens directs, enfin ça dépend d'état diplomatique, politique avec l'Organisation militaire africaine, enfin les problèmes politiques, mais enfin des liens directs et qui sont d'une nature radicalement différente. C'est-à-dire la manière dont Israël, l'état d'Israël aujourd'hui, se branche sur les goyim, que ce soit en Thaïlande, que ce soit à Madagascar, que ce soit ailleurs, qui est un ambassadeur ou pas, peu importe, le lien continue, et la manière dont les juifs étaient reliés aux goyim est devenue très différente. Ça passe plus comme avant, à travers l'église ou à travers la mosquée. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Ou en Afrique. C'est en train, je pense que la médiation reste en train.
Ah oui, la fraternité d'Abraham à Paris.
Attendez, mais pas tout à l'heure. Comment
c'est... Non, je pense que c'est en train de se faire, c'est pas acquis. C'est-à-dire,
mais je pense que c'est quelque chose de nouveau.
Il y a encore une médiation par l'islam ou par la chrétienté.
Si, ce que je veux dire, c'est qu'à mon sens, elle deviendra caduque. Elle deviendra caduque. Et je suis frappé de cela, c'est que déjà depuis le temps de l'humanisme, ça commence à s'indiquer même dans les communautés juives. Donc, par exemple, tous ces juifs qui sont en collaboration avec les goïms pour l'amélioration du salut du monde à travers tel ou tel humanisme socialiste ou pas socialiste, eh bien, ne passent plus à travers Ishmael ou Esav tel quel, en escalité, l'église ou la mosquée. Vous comprenez ce que je veux dire? Déjà, dès que les juifs se sont déjudaïsés, ils étaient en relation avec les goïms en dehors de l'église ou la mosquée.
Pardon, mais la diaspora a commencé bien avant la chrétienté.
C'est exact.
Et alors, il y a eu des communautés dans les autres pays, déjà.
C'est exact. C'est exact, et c'est pourquoi je vous dis que vraiment, la constitution, les communautés juives qui se sont perpétuées dans l'histoire, vraiment, dans ce problème d'identité mixte de relation avec la société extérieure, sont surtout celles, et nous ne connaissons l'histoire que de celles-là, du temps de chrétienté et du temps d'islam. Voilà ce que je veux dire. Le reste est mythique, préhistorique. Et ça s'est dit. Une explication que nous donnait M. Gordin est la suivante. C'est que M. Levinas a repris un peu cela dans la manière dont lui justifie son militantisme dans les amitiés judéo-chrétiennes. C'est qu'il y a un langage commun. Lorsqu'on est en milieu chrétien, on dit Adam, ça dit quelque chose. Abraham, ça dit quelque chose. Mais lorsqu'on parle avec un homme d'une quelconque tradition non chrétienne ou non musulmane, de quoi tu parles, qu'est-ce que c'est? Ça me semble un peu tiré par les cheveux. Mais enfin, il y a quelque chose de cet ordre. C'est que les goïms sont trop loin d'Israël. Il fallait quelque chose d'intermédiaire pour que l'on puisse parler à un goï. Il fallait qu'il soit chrétien ou musulman. Donc, on peut accepter. Qui dit? Oui. Qui dit quoi?
Que le mari parle à son femme.
Quelqu'un?
Il est Essa, mais pas du tout.
Quel?
La scène de Marat, c'est le matin de
les trois veilles de la nuit. Et qu'au matin...
Donc, le dialogue est ambigu, mais il est possible.
Oui, c'est vrai. Non, écoutez, il y a quand même une familiarité de croyant à croyant, bien qu'on ne croit pas dans les mêmes choses. On a un vocabulaire analogue, on parle de la Bible, mais au fur et à mesure du temps, j'ai l'impression que tout ça restera très artificiel et que le véritable dialogue entre Israël et les goïms doit se faire face à face sans ce masque de l'Église ou de l'Islam. C'est autre chose.
Il faut que les listes soient rendues.
Pardon.
Il
faut
que
les listes soient rendues. Parce qu'il y a eu la déjudaïsation des juifs, ils ont commencé à se relier aux goïms sans le langage religieux. Ah oui, c'est la suite de l'émancipation. Oui. Monsieur Roski a fait allusion hier soir à cela, en parlant du nouvel athéisme juif. Je pense que la relation entre les valeurs juives et les sociétés goyes était beaucoup plus féconde lorsque ça s'est fait en dehors du langage religieux que lorsque, c'est paradoxal que moi je vous dise cela, mais que lorsque ça s'est fait à travers des disputations judéo-chrétiennes ou judéo-musulmanes.
Mais peut-être que maintenant, surtout avec le christianisme, c'est en train de devenir, se redresser.
Il faudrait que je me renseigne, parce que moi je suis complètement déboussolé dans cette histoire.
Justement, les chrétiens, les catholiques vont en Israël, sont en Israël, aussi. Le dialogue s'améliore.
C'est pour nous ramener à eux.
Je ne voudrais pas avoir une trop grande digression, mais. Vous savez ce que disait, je passe un vers latin, mais je ne sais plus de qui. Timeo Danaos et Dona Ferentes. C'est dans l'histoire de Cheval de Troie. Hein. J'ai peur des Danaïens, surtout quand ils font des cadeaux. Oui. C'est des chevaux de Troie. Ouais. Et bon, je sens qu'on n'est pas du même avis, mais je voudrais dire ma pensée. J'ai aucune confiance dans cette hébraïsation des chrétiens actuels. Je ne sais pas ce que ça nous cache. Mais je suis très, très épidermiquement allergique.
Mais tu l'as pas toujours été.
Non, c'est sûr. Parce qu'entre-temps, j'ai des preuves, enfin des convictions qu'il n'y a aucune bonne foi. Entre-temps, j'ai ces preuves-là. Et j'ai cru en la bonne foi, il y a 30 ans, il y a 25 ans. Tu te rappelles de toi. Je suis persuadé qu'on se fait avoir dans les grandes largeurs. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que, je ne sais pas, je vais peut-être choquer, mais... Et d'abord parce que ça se fait en langue non hébraïque. Non, c'est pourquoi j'ai hésité un peu, parce que j'attendais l'objection, mais je vais vous dire, je sais très bien que le père Dubois, par exemple, parle hébreu, mais il parle en hébreu, mais il parle en hébreu du fond de sa conscience latine. Il ne parle pas l'hébreu juif, il parle l'hébreu de l'Ulpan, qu'il connaît très bien, il enseigne d'ailleurs la philosophie du Moyen-Âge en hébreu à l'Université de Jérusalem. D'autre part, il a tout un côté de sa personne qui est sincèrement ami des Juifs et d'Israël, et il est fier d'être israélien, etc., etc. Mais ça ne change rien au fond du problème. L'espérance chrétienne, tant qu'un chrétien est cohérent, c'est la conversion des Juifs au christianisme pour le salut du monde. Je dis bien pour le salut du monde, ils sont bonne foi, il n'y a pas de doute. Mais, laissez-moi finir de parler, j'ai eu des conversations privées à Jérusalem et à Paris, avec un certain nombre de ces personnes, je ne vais pas le nommer, ce n'est pas nécessaire, ils ont été francs avec moi et je suis convaincu que mon père son temps. Bon, d'un autre côté, comment dire, j'ai fait un peu allusion à cela en disant, d'un autre côté, dans ce dialogue, malgré tout, il se judaïse un peu, il s'hébraïse un peu, beaucoup, parfois, oui, donc ça passera, on ne sait pas ça. Comprenez, la générosité doit être anonyme, elle ne doit pas être intéressée. Comme dit le verset, « Shlach lachmecha l'pene amayim » jette ton pain sur l'eau, viendra toujours un oiseau pour le manger. Mais ça veut dire, bon, donc quelque chose passera. On n'a pas à attendre des... je ne suis pas du tout convaincu que ça aille dans le bon sens. Il y a sur deux points, et puis on referme la parenthèse, sur deux points, j'ai demandé très clairement, j'ai dit, écoutez, nous sommes amis. Vous voulez que je vous donne des noms, ok? Mais nous sommes amis personnels, dites-moi vraiment, je veux savoir, est-ce que vous avez renoncé à l'espérance chrétienne de convertir les Juifs? La réponse est non, on ne peut pas. Bon, elle a changé de stratégie. Comment? Pas du tout, je vous
ai
amené à la morale universelle. Non, maintenant, si, laissez-moi parler. Si il veut devenir juif, Baruch Abba lui fait une fête. Mais ce n'est pas nécessaire après. Okay. Attendez, laissez-moi parler. Et ils m'ont dit non très clairement. Et alors, si, bon, enregistré. D'accord, alors on sait jusqu'où on peut aller plus loin, trop loin, on ne peut pas aller trop loin, je ne sais pas comment on dit ça. Eh bien, et deuxièmement, quoi avec l'État d'Israël? Ah bon, alors là c'est embrouillé comme c'est pas possible. Là c'est embrouillé comme c'est pas possible, finalement la Terre Sainte, c'est la Terre Sainte, et les Juifs c'est des occupants, alors il faut bien faire attention à ça. Alors on vous donnera toutes les masses fataïm, je ne sais pas comment on dit ça, l'impôt du langage, comment on dit en français le masses fataïm? J'ai oublié, l'impôt du langage, c'est-à-dire le... Hein, vous donnera toutes les satisfactions verbales, hein. Oui, toutes les satisfactions verbales que vous voudrez, mais là, question, hein. Et l'alliance christiano-musulmane pour Jérusalem, c'est pas encore arrivé, mais ça va arriver et que ça va éclater, c'est grave. Voilà, alors sur ces deux questions, on dit non, non possumus, comme disait les Jésuites. Alors, il faut être averti les yeux ouverts. Ceci dit, je crois dans l'amitié des personnes, et ça je l'ai expérimenté personnellement. Je parlerai en tout cas pour le citer du père Riquet, Marie Arnaud, il vient d'être reçu docteur Maurice Cosa avec Gustave Marchand-Mois, comme on disait en Babelouette, comme on le savait, avec honneur et gloire, hein, il mérite l'amitié des personnes 100% quand ce sont des amis. C'est vrai, et ça existe, et il y en a beaucoup, bien que ce n'est pas eux qui décideront du sort des affaires politiques du monde, mais nous avons beaucoup d'amis sincères. L'amitié judéo-chrétienne, alors là, ça n'existe pas. Et je dois vous dire que j'ai jamais fait partie de l'amitié judéo-chrétienne. J'étais un des fondateurs. Ah, j'étais un des fondateurs, la frère Thermique d'Abraham. Comment ?
C'est pire actuellement.
C'est possible.
Ils veulent en rapprochement judéo-arabe à leadership chrétien.
Oui, c'est possible. J'étais un des fondateurs parce qu'il y avait les musulmans. Okay? Et en fait, les musulmans qui sont avec nous dans la fraternité d'Abraham, c'est pas des arabes, mais ça fait rien, c'est un commencement. Et puis, je peux vous dire ça, c'est un secret public, c'est une affaire montée par le Shin Bet, la fraternité d'Abraham. Tandis que l'amitié judéo-chrétienne, c'est une toute autre histoire. Okay? Et j'ai jamais voulu faire partie de l'amitié judéo-chrétienne, il faut le savoir. J'ai accepté de parler souvent chez les chrétiens, mais vous savez très bien, si vous y avez assisté dans le temps, c'était il y a 15 ans ou il y a 20 ans, c'était chaque fois pour les engueuler, ils disaient encore, mais merci et encore. Je ne sais pas si vous avez
Oui, madame.
Je veux dire pourquoi, parce qu'ils étaient rassurés que les juifs soient juifs. Ça les rassurait. Ah bon, alors soit encore on croit, ça a une base quelque part. Vous voyez, à peu près le résultat. Mais cette espèce d'hybride de nous avons une Bible commune, nous avons des croyances communes, nous avons. Ah non, jamais la vie, hein. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de judéo-christianisme. Michel m'a montré une phrase de Meishonik à propos du livre de Girard, que je garderai précieusement, et où il dénonce cela. J'ai plus la phrase en tête, tu l'as peut-être en mémoire. Il n'y a pas de judéo-chrétien, hein, ça n'existe pas. Judéo-chrétien.
Le chrétien est un mythe qu'il faut détruire. Il y a hébreu juif ou latin chrétien, qui a d'ailleurs une phrase. Gérard, en plus, le verbe d'âme de chance avec l'hébreu.
Oui, bon, c'est un problème. Alors voilà, je termine cette parenthèse. Lorsque Jacques Madol m'a demandé, mais pourquoi vous ne voulez pas faire partie de l'amitié judéo-chrétienne, je lui ai dit, écoutez, je ne veux pas être hypocrite. Parce qu'il y a une affirmation qu'on se convertira pas l'un l'autre, mais tant que l'Église n'a pas renoncé à convertir des Juifs, moi je veux garder le droit que si jamais un chrétien me demande d'être converti, que de pouvoir le faire en toute sans scrupule. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça arrive tous les jours. En fait, tous les jours, c'est exagéré, mais... Bien, oui.
Paradoxalement, je pense que le dialogue judéo-chrétien aujourd'hui est rendu plus difficile ou impossible pour une autre raison. Jusque à une époque, disons que je ne peux remonter à 2 ou 3 siècles, on vivait en milieu chrétien, le dialogue était difficile parce qu'il était faussé, comme tout à l'heure, étant donné que dans les disputationnels, automatiquement les juifs étaient condamnés.
A priori.
À la limite, l'arabe dit, le dictateur, imaginons à Auschwitz un Allemand discutant avec un juif, quelle chance avait-il, même si c'était bonne foi. Il y a un excellent d'ailleurs dans le salut par les juifs de Léon Blois, Blois raconte à la fin du chapitre 3. Une histoire remarquable d'un chevalier chrétien qui discute avec un juif, et le juif ne trouvait pas d'argument pour répondre à ce chevalier chrétien. Et à bout d'arguments, le chrétien dit, bien juif, voici un argument auquel tu ne pourras pas répondre, il sort son épée, il prend sa prise. Donc le dialogue judéo-chrétien qui fait partie de notre histoire, qui est nécessaire, parce que c'est la Gomara qui le dit. Et qu'il y a une cohérence dans cela, était rendu, était faussé. Aujourd'hui, il semblerait que ce dialogue soit plus facile, puisque nous avons le droit d'être autonome, et nous ne pouvons par conséquent dire aux chrétiens, non, ils ne sont pas d'accord. Là, tu l'as fait en 1952, dans un numéro historique retentissant, depuis souvent les chroniques sociales de France.
Sous la présidence du cardinal Gerlier.
Les juifs. Et nous, dans lequel tu as écrit un article, c'était les chrétiens et nous, et qui a été absolument une révélation pour les chrétiens et un scandale, puisque pour la première fois publiquement, un juif, au nom de la Torah, n'est-ce pas, disait, mais la Torah peut vous dire, chrétien, ce que vous êtes, pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec vous, et ce que vous avez à faire, si vous voulez, engager le dialogue. Donc ce dialogue aujourd'hui semble possible, mais je crois qu'il est beaucoup plus difficilement impossible pour une raison qui a fait scandaliser beaucoup de personnes, c'est que je crois. Très, très profondément, que les chrétiens ont perdu le sens Il n'y a plus, je crois.
Ah, ça, c'est intéressant.
Il n'y a plus, je crois. Voilà, très bien.
Tu es d'accord?
J'allais dire de cabale chrétien, parce que les chrétiens ont le sens ésotérique de leur propre tradition. Et en particulier, le dialogue est faussé. Car de l'autre côté aussi.
Même depuis.
Alors, de l'autre côté aussi, quand on voit les comptes rendus des réunions judéo-chrétiennes, ils ne parlaient pas la pauvreté.
Tu te rappelles ce que disait M. Gordet, la bouillie sucrée.
Et Claudel déjà.
Elle est comme la farine lactée. Oui.
Et Claudel le disait d'ailleurs également. Claudel, parce qu'il était parti à l'Amérique, il a parlé d'un numéro spécial en 1936, sur les quais, par rapport il n'y a pas longtemps, parlait de cette lavasse humanitaire.
Voilà, c'est ça.
Qu'il avait rencontré en Amérique, chez les protestants, mais on peut l'appliquer, bien entendu, malheureusement aussi, aux rabbins juifs, surtout l'Amérique. Certains rabbins juifs.
Vous savez, je veux dire deux choses.
Je voudrais terminer, si vous
permettez. On revient à l'Iva.
Quand on voit les comptes rendus de ces réunions actuellement, on est frappé par la pauvreté, parce que d'une part, les juifs qui y vont, on a l'impression qu'ils ne savent pas. Vous ne croyez pas? Vous connaissez pas? Certains, et les chrétiens non plus. Alors maintenant, il me semble d'ailleurs difficile d'expliquer, pas chrétien, c'est pas mon problème directement, il me semble difficile de comprendre certaines innovations de Vatican II à la lumière d'un chrétien authentique. Un chrétien qui sait de quoi il parle n'aurait pas pu faire certaines réformes, de même que nous savons, nous juifs parisiens, que. Un juif qui sait de quoi il parle, parce que ça, c'est la réforme.
Qu'est-ce que ça dit, parisien ou pharisien?
Ça, c'est la réforme qui a été faite par le prévêque de Beau. Alors, je crois que c'est là aussi une des raisons pour laquelle ce dialogue est. Et maintenant, en ce qui concerne la non-conversion, il y a eu à Vienne, il y a un an, un colloque, auquel d'ailleurs le terme est et au cours duquel a été proposé. Que l'Église renonce officiellement à la conversion des juifs. Oui. Et alors je dis à ce moment-là,
attendez,
ça paraît extraordinaire, ça prouve bien que vous savez plus de quoi il parle.
Oui. Écoutez, juste après, j'ai rencontré le père Dupuis à Jérusalem, et je lui ai dit, je suis fou de joie de lire ça. Il m'a dit ça en hébreu, Ashrei Hamaamim. Heureux les croyants. C'est pas de mal à veille. Mais je vais dire deux choses maintenant pour clore cela, et je ne voudrais pas risquer de la calomnie. Je me demande si dans certains milieux, je marche sur des œufs durs, non. Sinon, dans certains milieux, c'est pas ce qu'a dit Roski hier soir, je sais pas, je veux annexer ce que vous avez dit, c'est pas la nouvelle forme du passeport pour entrer chez les goyim, l'amitié judéo-chrétienne. Je me demande ça avec beaucoup d'angoisse. Une.
De la part des juifs
ou de la part des juifs? De la part des juifs, des juifs. Pour entrer dans la société goy de plein pied. Mais alors, ils se trompent, c'est une toute petite porte, ça c'est la porte étroite. Il y a des grandes portes maintenant qui nous sont ouvertes et autre chose. Et puis, une deuxième chose, je voudrais rappeler un autre événement historique, c'était il y a 13-14 ans, je ne me rappelle plus. Les intellectuels catholiques de la rue Madame ont fait une semaine sur « Qui dis-tu que je suis ? Qui est le Christ ?» Je ne sais pas si vous avez vu ce bouquin là, oui, vous l'avez vu. Et ils m'ont invité avec beaucoup de courage.
Il y avait Eliane aussi avec vous, Eliane
Madame. C'est ça, et M. Lévinas, dans la semaine. Et alors, je leur ai dit ceci. C'est peut-être la première fois qu'il y a un vrai dialogue, et que vraiment on se parle d'égal à égal, soi-disant, enfin, mais d'égal à égal, en me référant à ce que tu as dit, au Moyen-Âge, il n'y avait pas de dialogue, il y avait les baïonnettes derrière, enfin, il y avait le sable, le tout. Et alors, je leur ai dit une chose assez un peu paradoxale, mais ils l'ont bien admis, et j'ai dit, finalement, on va parler de choses très anciennes, qui sont des affaires de familles juives il y a 2000 ans. Et alors, je ne sais pas si c'est vous qui devez, je parlais à des catholiques, il y a toute une brochette de...
Il y avait un protestant.
Oui, non, mais c'était une assemblée catholique, surtout. Il y avait des tas de cardinaux, de machins, de trucs. Oh, ils ont dit, bon. Je ne sais pas si c'est vous qui devez me souhaiter la bienvenue chez vous, ou si ce n'est pas moi qui dois vous souhaiter la bienvenue chez moi. Mais puisqu'on allait parler de choses concernant Israël. Ils ont bien encaissé. Et ils ont eu l'honnêteté absolue de faire paraître tout ce que j'ai dit, c'est imprimé, et je sais que... C'était pas tant. Vous avez lu cette page? Eh bien, c'est vrai, mais je suis de plus en plus pessimiste, parce que maintenant ils connaissent l'hébreu. En fait, de plus en plus, ils entendent la Torah Shebaalpé, qu'ils n'avaient jamais entendu. Il y a un renouveau de la formulation spirituelle, religieuse, en France en particulier, et qui est très intense chez les juifs, d'après les sociologues des religions contemporains. C'est beaucoup plus intense chez les juifs que chez les catholiques ou les protestants, ils en profitent, et vous le dites très clairement, nous l'en ressources. J'ai lu des rapports où on parle de différents sens de recherche, de tentative de formulation contemporaine, où le centre rachid est en tête de tous les autres centres catholiques, et bon, je n'ai pas dit qu'il est catholique ou protestant, mais le monde est celui-ci, et ils le savent, et ils utilisent ça, certains de leurs prêtres sont envoyés exprès chez les grands enseignants, je ne dirai pas de nom, pour apprendre, et pour aller aux sources, etc. Et ils apprennent l'hébreu, et d'autre part, c'est eux qui sont à l'aise, beaucoup plus que nos rabbins, pour parler ces choses-là en français, parce que le français c'est leur langue finalement. Vous comprenez ce que je veux dire ? Alors finalement, ils sont beaucoup plus à l'aise. Vous savez, quand le père Dupuis utilise un midrash, eh bien, ça a plus de gueule, je m'excuse du terme, que quand c'est le rabbin juif que tu pensais. Vous voyez ? Tout simplement parce que c'est leur monde culturel, la Bible en français, c'est pas le nôtre.
La difficulté. Ce qui est pire, c'est que le père Dupuis, c'est pas le père Riquet. Lui, il est commission épiscopale, il est un personnage officiel, il est Vatican. Riquet est gentil. Dupuis est forcé d'être dur. Dupuis est forcé d'être dur.
Non, je vous dis, voilà. Moi, vous m'avez posé la question, je vous la répondrai comme là. J'ai aucune confiance. Ceci dit, en mettant le problème théologique entre parenthèses, je vais vous dire que si l'amitié judéo-chrétienne a servi à faire de l'amitié entre juifs et chrétiens dans la société française, c'est un problème de l'humanisme français, c'est pas un problème de dialogue théologique. C'est un problème d'humanisme français, de courtoisie et de civilité française. Et je pense que le milieu de la civilité française a facilité cela. Mais c'est à l'actif de la France, pas de l'Église ou de la Cité. Est-ce que c'est clair ? Bon. Vous voulez qu'on arrête la parenthèse ?
C'est dangereux, alors.
Ah, l'amour d'Arak, mais qui va me chier. Pourquoi je suis inquiet ? Parce qu'il y a dans la jeunesse juive un grand désarroi, surtout dans la jeunesse juive transplantée d'Afrique du Nord, qui n'a pas vécu la vie ashkénaze. Pendant 2000 ans, on était en milieu chrétien, on a eu le temps chez les ashkénazines de sécréter les anticorps nécessaires. Je ne sais pas si vous comprenez ce que vous voulez. On était immunisés, vaccinés. Alors que les saladins d'Afrique du Nord, qui viennent d'un pays d'islam, fascinés par la langue française, de l'école française, et pas du quartier, et pas du quartier chrétien, okay, mais de l'école française laïque et républicaine, ne sont pas du tout protégés par cela. Et comme il y a énormément d'ignorance dans cette jeunesse, qui n'a pas allé au Talmud Torah, et qui ne peut pas parler avec son grand-père qui parle encore l'arabe, l'espagnol, etc., eh bien, il y a une fascination. On découvre des goyim croyants de la Bible, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la fierté de notre Bible. Oui. Et alors, et quand on ne connaît pas la Torah, et qu'on ne connaît pas non plus la théologie chrétienne, à la limite, et pour toutes les raisons socio-politiques qui jouent, et socio-économiques qui jouent, finalement, il arrivera qu'il n'y aura plus de monde différent de faire un mariage à l'église ou à la synagogue.
Mais ça va
autre chose. Vous je veux dire. Hein? Rien à voir en Israël, rien à voir.
Non, si ça se passe en Israël, c'est autre chose.
Et ça ne se passe pas en Israël. En Israël, ça ne se passe pas. Vous avez quelques...
C'est amitié, je veux dire.
Ça n'existe pas. Vous avez quelques académiciens, j'allais dire académiciens, universitaires, dont c'est le métier de s'occuper de ces choses-là, parce que c'est leur chair à l'université ou ailleurs. C'est très mondain, artificiel, autour d'une tasse de thé, et puis ça se fait en anglais, parce que de toute façon, il y a des intérêts politiques derrière, mais c'est tout simple, mais ça n'existe pas. Il n'y a aucun trait du monde judéo-chrétien en Israël, parce qu'il y a le travail des missions, et on essaye de lutter contre, d'autres choses. Leur slogan, c'est qu'ils missionnent, etc. Mais c'est autre chose, là-bas, il n'y a aucun danger. Vous comprenez ? Il y a un problème, il n'y a aucun danger. Ce que je fais, et je parle au nom de ma communauté d'origine, c'est qu'il n'y a pas de protection contre ce problème. Oui, écoutez, les problèmes.
Ça se limite à la France ou en Amérique ?
Chaque pays a ses particularités. Mais de dire que, en toute bonne foi, énormément d'intellectuels juifs en quête de la parole publique en français risquent de la recevoir par le canal chrétien premièrement que le canal juif. Vous comprenez, vous êtes dans des milieux privilégiés, vous ne voyez pas ce qui se passe dans la grande population, et dans la grande population est très en danger. Ken, oui, vous avez la parole.
J'ai beaucoup d'enfants du Saint-Pierre et aussi de gens qui viennent justement d'Afrique du Nord. Et je suis plus frappée par leur tendance à exprimer que hautement leur appartenance juive, les murs de mon